Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 13 mai 1917, la Cova d'Aguilera, deux éclairs, sur un petit chêne vert, une dame, toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil. C'est Lucie, la plus âgée des voyantes, qui raconte. Alors, Notre-Dame nous dit, « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » « Venez-vous, madame, je suis du ciel. » « Et moi aussi, est-ce que j'irai au ciel ?»« Oui, tu iras. » »« Et Jacinthe ?»« Aussi. » »« Et François ?»« Aussi. » »« Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. » »« Oh, ma Notre-Dame !» s'exclama François lorsque Lucie lui transcrit les paroles de la Madone, car lui la voyait, mais n'entendait pas ses paroles. D'échapper, j'en réciterai autant que vous voudrez. Depuis lors, témoigna Lucie, il prit l'habitude de s'éloigner de nous comme pour se promener. Si je l'appelais et lui demandais ce qu'il faisait, il levait le bras et montrait son chapelet. Le petit François a répondu à la demande de la Madone. Il a récité beaucoup de chapelets avant sa mort survenue dès le 4 avril 1919. L'Église l'a placé parmi les bienheureux du ciel. Je ne suis pas la Sainte Vierge, mais je peux vous promettre aussi et en son nom d'aller au ciel si vous êtes fidèle au chapelet. N'est-ce pas la grande demande de Notre-Dame à Fatima? Elle s'y est présentée comme Notre-Dame du Rosaire. À chaque apparition, elle a demandé aux voyants de réciter le chapelet tous les jours. Et le 13 octobre, après le grand miracle du soleil, elle précise « Je veux que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. » Cependant, reconnaissons-le tout de suite, la prière du rosaire n'est pas une nécessité absolue, comme le recours au sacrement. Elle fait partie de ces pieuses dévotions qui sont laissées à la liberté des enfants de Dieu. Pendant des siècles, les baptisés n'ont pas connu cette forme de prière. C'est au cours des siècles que s'est constituée la prière du rosaire, avec l'assistance du Saint-Esprit. Loin d'en diminuer la place, cela nous encourage à y voir une volonté de Dieu, un moyen privilégié qu'il nous donne pour notre temps. Alors, c'est clair pourquoi l'Église et la Sainte Vierge, dans toutes ses apparitions, nous y encouragent si fortement. Les papes n'ont cessé d'inviter avec force les chrétiens à être fidèles au chapelet. Léon XIII en était si convaincu qu'il ne consacra pas moins de 12 encycliques pour recommander la prière du rosaire. Saint Jean-Paul II confiait que c'était sa prière préférée. C'est une prière merveilleuse, disait-il, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Pourquoi une telle insistance sur le rosaire? Les papes nous donnent eux-mêmes la réponse. Elle est bien admirable, disait Pie XI en citant lui-même Léon XIII. Cette couronne, formée de la salutation angélique et de l'oraison dominicale, unie à la méditation, elle forme la plus excellente méthode de prière. La plus excellente méthode de prière. Saint Pie V soulignait déjà cela au VIIe siècle. Son secret, passé par ma vie. Toute prière, ultimement, est tournée vers la très sainte Trinité. Mais le secret du rosaire réside dans le fait de passer par ma vie, de mettre en jeu l'efficacité de sa médiation. Pour mieux le comprendre, arrêtons-nous sur trois dimensions essentielles de la prière. Et nous verrons comment le rosaire les réalise par ma vie. Tout d'abord, la prière est une demande pour obtenir la grâce de Dieu. Elle est ensuite une transformation intérieure pour rendre les âmes semblables à Jésus. Enfin, la prière a pour but de nous faire vivre en présence de Dieu. Le rosaire réalise ces trois dimensions de façon simple et profonde par Marie avec Marie. Jésus nous dit « Demandez et vous recevrez ». Pourquoi ? Nous avons bien conscience de nos manques, de notre pauvreté, de notre besoin d'aide pour notre vie terrestre. Oui, et Jésus lui-même nous a pas demandé ces choses dans le Notre Père qui débute chacune des dizaines de notre chapelet, lorsqu'il nous fait dire « Donnez-nous aujourd'hui le pain de chaque jour ». Mais le Notre Père commence par nous faire demander le plus important, la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté de Dieu, c'est sa gloire, c'est notre salut éternel. Celui qui prie se sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne certainement. Tous les élus, à l'exception des enfants, se sont sauvés par la prière. Tous les damnés se sont perdus faute de prière. S'ils avaient prié, ils ne se seraient pas perdus. Telle est la conclusion de saint Alphonse de Ligorie, docteur de l'Église, dans son merveilleux petit livre « Le grand moyen de la prière ». Son argumentation repose sur le fait que le salut est un don, une grâce de Dieu, qu'il nous faut donc demander. Pour notre salut s'applique totalement la parole de notre Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avons-nous bien conscience de cette nécessité de la prière? Un fait divers apporté par le Père Pro nous servira de parabole éclairante. Un groupe de jeunes en vacances, ils ont loué un bateau, le ciel bleu sur la Méditerranée immobile. Tout à coup, une voix s'élève, moqueuse. Chiche, on plonge. Ils coupent le moteur et ils plongent les uns après les autres en maillot de bain. Ils sont 8 jeunes gens, garçons et filles de sportifs qui ont abandonné le bateau écrasé de soleil. Ils ont oublié une seule chose, c'est de jeter l'échelle et de couper. Ils se baignent en haute mer, dans un sentiment de liberté et de beauté, jusqu'à l'instant où l'un d'entre eux, désirant remonter à bord, s'est aperçu qu'il ne le pouvait pas. Au début, peut-être cela les a fait rire. Maintenant, imaginez les efforts qu'ils doivent fournir pour remonter sur le pont du bateau. Comment venir à bout de cette paroi unie et légèrement recourbée au-dessus d'eux? Pendant des heures, les mains ouvertes ont cherché à s'agripper. Elles ont tenté de trouver l'aspérité au ras de cette surface inaccessible. Ils ont fait la courte échelle jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la suffocation. C'est la lutte contre l'agonie et la nuit qui tombe brusquement. On a retrouvé le bateau 2 jours plus tard à la dérive. Cette croisière tragique des jeunes renvoie l'histoire de l'humanité à l'histoire de chacun. Il y a un bateau où l'on peut être sauvé. À son commandement, il y a le Christ qui vient nous chercher. Et il y a une échelle de poupée qui nous tend. C'est par la prière et elle seule que nous pouvons nous en saisir. Demandez et vous recevrez. S'il nous faut prier pour obtenir la grâce de Dieu, quelle meilleure prière que la récitation du Notre Père qui nous fut enseignée par le Sauveur lui-même, que l'Ave Maria, composée des paroles de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation et des paroles d'Élisabeth lors de la visitation que Marie fit à sa cousine, et le Gloria Patri qui conclut chaque dizaine, n'est-il pas une merveilleuse doxologie, c'est-à-dire un chant à la gloire de la Trinité Sainte qui couronne et parachève notre prière. L'Ave Maria comporte une deuxième partie consacrée à la demande. Elle nous fait supplier pour les deux instants les plus importants de notre vie, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, c'est l'instant présent dans le pèlerinage de notre quand nous devons tenir pour suivre notre chemin vers le ciel. C'est le temps de la grâce de Dieu, de la miséricorde. À l'heure de notre mort, c'est le moment des comptes, celui où cesse toute illusion, où l'homme paraît devant son Créateur et Père et apparaît dans toute sa vérité. C'est l'instant qui décide de son éternité. Nous espérons alors pouvoir murmurer à nouveau un Ave pour obtenir par Marie la miséricorde suprême du cœur de Jésus, afin d'entendre de sa bouche « Venez les bénis de mon Père, entrez dans la joie de votre Maître. » Pour obtenir ces grâces, le rosaire nous fait passer par Marie. Nous sommes, comme le dit la traduction française de l'Ave Maria, de pauvres pécheurs. Alors, nous nous tournons vers celle qui fut choisie pour être la mère du Sauveur et aussi notre mère. Parce qu'elle est la mère de Jésus, parce qu'il l'a choisie comme associée dans l'œuvre de notre rédemption. Elle était debout au pied de la croix. Il veut qu'elle soit associée à la distribution des grâces. La co-rédemption appelle la médiation universelle des grâces. C'est donc suivre le plan de Jésus que de passer par elle pour obtenir les grâces dont nous avons tant besoin. D'ailleurs, l'histoire du rosaire est riche en faits extraordinaires qui nous disent la puissance de celle que l'on a pu appeler la toute-puissance suppliante, et qui nous disent combien la récitation du chapelet touche son cœur immaculé. Il faut rappeler la victoire de Lépante, où la flotte chrétienne triompha de celle des infidèles en 1571. La fête instituée pour commémorer cette victoire reçut d'abord de Saint Pie V le nom de Notre-Dame des Victoires, et seulement plus tard Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Cela nous rappelle seulement que Notre-Dame du Rosaire est Notre-Dame des Victoires. Mais il y a, tout près de nous, la libération si étonnante de l'Autriche le 13 mai 1955, après 10 ans d'occupation. Environ 1 million d'Autrichiens, avec à leur tête le chancelier Spiegel, s'étaient engagés à réciter le chapelet tous les jours. Un évêque autrichien disait en septembre 1972, « De même que l'Autriche a été libérée du joug communiste par la récitation fervente du rosaire, c'est avec la même arme du rosaire que le monde se libérera des assauts actuels du démon et de ses complices. » 40 ans plus tard, cette affirmation est toujours vraie, notamment par rapport à l'islam. Enfin, la prière pour être efficace doit être persévérante. N'est-ce pas l'une des qualités du rosaire? En nous encourageant à réciter le chapelet tous les jours, la Très Sainte Vierge nous enseigne cette persévérance dans la prière. À son école, nous tiendrons fidèlement cette bouée de sauvetage qu'est la prière de demande. Merveilleuse prière de supplication, le rosaire est surtout une prière contemplative des mystères du Christ. Avec lui, disait Jean-Paul II, le peuple chrétien se met à l'école de Marie pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour. Oui, le rosaire est une prière nettement contemplative. Et comme le disait encore Jean-Paul II, citant le bienheureux Paul VI, privé de cette dimension, il en serait dénaturé. Sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme, et sa récitation court le danger de devenir une répétition mécanique de formules et d'agir à l'encontre de l'avertissement de Jésus. Quand vous priez, ne ravagez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Par nature, la récitation du rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps, afin que la personne qui s'y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur. Vu, à travers le cœur de celle qui fut la plus proche du Seigneur, et qu'ainsi s'en dégage les insondables richesses. Méditer les mystères de la vie du Seigneur, vu à travers le cœur de celle qui en fut la plus proche du Seigneur, n'est-ce pas une magnifique définition du rosaire? La richesse du rosaire consiste donc dans l'union de la répétition des plus belles formules de prière, le Pater, l'Ave et le Gloria, avec la méditation des mystères de la vie, de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ Jésus. Et cela par Marie. Il nous fait entrer dans chaque mystère par le regard de Marie. Écoutons encore saint Jean-Paul II. Marie vit en gardant les yeux fixés sur le Christ. Et chacune de ses paroles devient pour elle un trésor. Elle retenait tous ces événements, les méditant dans son cœur. Les souvenirs de Jésus, imprimés dans son esprit, l'ont accompagnée en toutes circonstances, l'amenant à parcourir à nouveau, en pensée, les différents moments de sa vie aux côtés de son Fils. Ce sont ces souvenirs qui, en un sens, ont constitué le rosaire qu'elle a constamment récité au long des jours de sa vie terrestre. Et maintenant, Marie propose sans cesse aux croyants les mystères de son Fils, avec le désir qu'ils soient contemplés, afin qu'ils puissent libérer toute leur force salvifique. Lorsqu'elle récite le rosaire, la communauté chrétienne se met en symphonie avec le souvenir et avec le regard de Marie. Cette force salvifique, c'est la grâce du mystère. En chaque mystère de sa vie terrestre, Jésus, avec Marie, travaille à notre sanctification. Il nous obtient de renaître à la vie surnaturelle des enfants de Dieu. Il nous donne de devenir fils dans le Fils, de vivre de sa vie, d'être transformé à son image. La spiritualité chrétienne appelle au cœur saint Jean-Paul II a pour caractéristique fondamentale l'engagement du disciple à se conformer toujours plus pleinement à son maître. Selon les paroles de l'apôtre, il faut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Dans le parcours spirituel du rosaire, fondé sur la contemplation incessante en compagnie de Marie, du visage du Christ, on est appelé à poursuivre un tel idéal exigeant de se conformer à lui, grâce à une fréquentation que nous pourrions dire amicale. Elle nous fait entrer de manière naturelle dans la vie du Christ et, pour ainsi dire, respirer ses sentiments. Le bienheureux Bartolo Longo dit à ce propos, de même que deux amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler, même dans la manière de vivre, de même nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge par la méditation des mystères du rosaire et en formant ensemble une même vie par la communion, nous pouvons devenir, autant que notre grâce le permet, semblable à eux, et apprendre par leurs exemples sublimes à vivre de manière humble, pauvre, cachée, patiente et parfaite. Contempler avec Marie la vie du Christ, nous imprégner des pensées et du mode de vie de notre Seigneur, recevoir la grâce christo-conformante des mystères de Jésus pour ne faire plus qu'un avec Jésus, tel est le fruit du rosaire médité fidèlement chaque jour. Notre vie théologale d'enfant de Dieu en est renouvelée à chaque dizaine. Par la méditation des mystères joyeux, notre foi en l'incarnation rédemptrice est fortifiée. Nous sommes invités à recevoir de Marie l'enfant Dieu qui se donne à chacun. Il nous apprend la vie cachée des pauvres, toute donnée au Seigneur. Dans les mystères lumineux, c'est toute la lumière du Christ qui rayonne de sa vie publique. Jésus y révèle sa vie avec le Père. et quel feu le porte à les guérir et sanctifier les hommes. Il institue l'Eucharistie par laquelle il continuera son œuvre sanctificatrice. Dans les mystères douloureux, c'est le combat contre le péché et les forces du mal. Par son sacrifice qui culmine sur la croix, Jésus remporte la victoire et nous donne de porter notre croix à sa suite. Cette croix composée de toutes les épreuves, souffrances, abandons qui parsèment nos vies. Là grandit la charité devant la révélation sanglante de l'amour infini de Dieu. Où pourrions-nous puiser plus abondamment une charité vive qu'en méditant les mystères douloureux? Enfin, les mystères glorieux révèlent notre espérance. Jésus est vraiment ressuscité et monté auprès de son Père. Marie est associée à sa gloire avec son âme et son corps. La porte du ciel est ouverte et Jésus nous y prépare une place et nous y attire. Pensons au ciel et nous irons au ciel, disait l'abbé Berthaud, le fondateur des Dominicaines de Pontalec. Récitons notre chapelet, portons nos regards vers la béatitude du ciel, gardons cette espérance bien ancrée dans notre cœur et nous irons au ciel. Supplication, contemplation et conformation au Christ, notre chapelet est encore un grand moyen de tendre vers la prière perpétuelle et par elle à vivre toujours en présence de Dieu. Comme cela a été maintes fois souligné avec raison, le chapelet s'adapte à toutes les conditions où nous pouvons nous trouver pour nous aider à prier. Il s'adresse à tous, aux polytechniciens, aux théologiens, comme à l'enfant qui ne sait pas lire. Il soutient la prière familiale ou celle d'un groupe de personnes, comme il convient également aux priants solitaires. Sa récitation peut varier. Vous pouvez méditer calmement les cinq dizaines à la suite, ou les effréner au cours de la journée pour la sanctifier, comme les religieux sanctifient les heures par la prière du bréviaire. Don Gérard, le fondateur de l'abbaye du Barou, disait qu'une dizaine de chapelets dure environ 2 minutes 30. Il est vrai que les mamas italiennes ont un autre rythme, mais en gros, vous constaterez que c'est vrai. Alors, qui peut prétendre ne pas avoir plusieurs fois par jour ces 2 minutes 30 pour élever à nouveau son âme par la récitation d'une dizaine de son chapelet? Prière reposant sur des formules, prière vocale ou seulement mentale, prière courte ou prolongée, le rosaire s'adapte à toutes les situations. En promenade, à la campagne, en pèlerinage, bien sûr, en voiture, ou même dans la foule de la rue ou dans le métro. Il soutiendra notre prière pour l'aider à rester fixé vers le Seigneur. D'où vient cette capacité à soutenir ainsi notre prière en toutes circonstances? De ce qu'elle comporte la répétition des mêmes formules. Pourtant, cette répétition est pour certains une difficulté. N'est-ce pas contraire à la vie de Jésus qui nous demande de ne pas rabâcher dans la prière comme ceux qui n'ont pas confiance en la bonté de notre Père Céleste? Cependant, la répétition ne provient pas du doute, mais du désir de répondre à l'invitation de Jésus de prier sans cesse. Nombreux sont les grands priants qui ont aimé cette répétition inlassable. On raconte qu'un dominicain, le frère Roméo, meurt en 1261, récitait 1000 Ave Maria chaque jour. À l'imitation de la prière de Jésus, chérie des chrétiens d'Orient, elle lui servait à s'élever ainsi vers Notre-Dame et le Christ Sauveur. Vous connaissez le mot du père Lacordaire à propos justement du rosaire. L'amour n'a qu'un mot, et en le redisant toujours, il ne se répète jamais. Chesterton a expliqué que la répétition est une caractéristique de la vitalité des enfants. qui, elles, on leur raconte les mêmes histoires avec les mêmes mots, encore et toujours, nullement par ennui ou manque d'imagination, mais par joie de vivre. Chesterton écrivait, c'est parce que les enfants débordent de vitalité, qu'ils sont farouches, libres d'esprit, qu'ils veulent que les choses se répètent et ne changent pas. Ils demandent toujours encore, et la grande personne recommence encore, jusqu'au bord de l'épuisement, car les grandes personnes ne sont pas assez fortes pour résister dans la monotonie. Peut-être Dieu est-il assez fort, lui, pour résister dans la monotonie. Peut-être Dieu dit-il tous les matins au soleil, allez encore, et tous les soirs à la lune, allez encore. Ce n'est pas forcément d'absolue nécessité qui fait que toutes les marguerites sont semblables. Peut-être Dieu fait-il chaque marguerite séparément, mais ne se lasse jamais de les faire ainsi. Peut-être Dieu a-t-il un éternel appétit d'enfance. Car si nous avons péché, nous avons grandi, notre Père est plus jeune que nous. La répétition dans la nature n'est peut-être pas une simple récurrence, mais comme au théâtre, un bis où le ciel rappellerait l'oiseau qui a pondu. N'en est-il pas de même de la répétition de notre rosaire? Parfois, nous éprouvons le vide de nos pensées. Mais là encore, ce n'est pas un obstacle, et c'est même un passage obligé de la prière. Saint Thérèse d'Avila dit quelque part qu'il faut accepter de s'ennuyer dans la prière. Sinon, nous ne prierions que pour les joies ou sensations qu'elle peut nous procurer. Un ancien maître de l'ordre dominicain faisait remarquer, il est vrai qu'en priant le rosaire, on ne pense pas toujours à Dieu. On peut continuer des heures durant sans la moindre pensée. On est juste là, on dit nos prières. Et cela peut aussi être bon. Quand nous récitons le rosaire, nous célébrons que le Seigneur est vraiment avec nous. Et nous sommes en sa présence. Nous répétons les paroles de l'ange, le Seigneur est avec nous. C'est une prière de la présence de Dieu. Oui, prière de la présence de Dieu, qui tend vers une prière de la présence à Dieu, pour être prière de la présence en Dieu, maintenant et à jamais. Le rosaire réalise alors la définition qu'en a donnée le vénéré Herbessière, dominicain et gardien de la Sainte Baume, un enchaînement d'amour de Marie à la Trinité. Au terme de ces réflexions sur le rosaire, nous comprenons cette affirmation du pape Léon XIII, citée au début de cet exposé. Elle est bien admirable, cette couronne, formée de la salutation angélique et de l'oraison dominicale, unie à la méditation. Elle forme la plus excellente méthode de prière, très efficace pour nous faire acquérir la vie éternelle. Saint Pilis, lui, nous laisse ce testament. Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. De toutes les prières, le rosaire est la plus belle et la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. Aimez donc le rosaire et récitez-le avec piété tous les jours. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.